Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Tant qu'on est d'accord sur la manière de gérer la capitale, je pense que ça ne pose pas de souci qu'elle soit d'un parti conservateur.
Et conservateur comme conservateur, on parle du parti Ennahda en Tunisie qui soutient la maire de la ville de Tunis, une femme élue en mai, une femme soutenue donc par les islamistes mais qui elle-même est progressiste et non voilée. On va voir comment tout cela est réellement compatible grâce à l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Amélie Perrier en Turquie, en Israël et en Allemagne ce soir, 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce, les femmes dans le monde à l'honneur avec ces saoudiennes notamment qui retournent leur abaya. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four, les piliers fissuré européen. Comptez-vous, Merkel pas très en forme, Theresa May n'en parlons pas, Emmanuel Macron est branlé aussi sur ses fondations. Qui est fort en Europe désormais? On le verra avec lui. Mais d'abord, on se promène, tiens, justement, un gilet jaune sur le dos. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Yellow vest, donc chaleco amarillo disent les Espagnols, gelb vesten disent les Allemands. Comment dit-on gilet jaune en portugais, Ana Navarro Pedro? Voilà, et on l'a beaucoup prononcé ces derniers temps ou pas?
Beaucoup, et vous on va encore beaucoup plus le prononcer puisque ça s'étend au Portugal.
Ah, et vous allez nous raconter ça, vous êtes correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais Visao. Je vais pas me risquer au suédois si vous le permettez, Vibeke Knup, Brachlin, comment on dit? On dit pas peut-être.
Norvégien.
Norvégien, pardon, pourquoi j'ai dit suédois? Pardon, autant pour moi.
Norvégien. Le vest, non?
D'accord, très bien. Et encore, désolé, il ne faut pas rigoler avec ça dans les pays de l'Europe du Nord. Alors, on a vu pas mal d'ironie de la part de beaucoup de dirigeants autour de nos fameux gilets jaunes. Le Venezuela, l'Iran, Vladimir Poutine nous ont donné des leçons de démocratie. Donald Trump, qui a lu de travers, nous a expliqué aussi qu'on manifestait contre les accords de Paris et qu'on entendait donner nous Trump sur les barrières et les ronds-points. En Europe, on a regardé les choses très différemment parce qu'on s'est senti probablement parfois assez proche. Alain Navarro-Pedro, vous disiez qu'on commence à envoyer. Ça veut dire quoi en fait? Est-ce que doucement on porte aussi ce gilet-là chez vous?
Il y a tout un mouvement sur Facebook et WhatsApp créant des groupes de gilets jaunes au Portugal avec le but de bloquer le pays le 21 décembre dans le même modèle des gilets jaunes en France et pour les mêmes raisons, moins de taxes, plus de pouvoir d'achat. Peut-être pas, on ne demande pas une démocratie plus vertueuse, qui a une grande demande chez les gilets jaunes quand on parle avec eux en France.
Oui.
Mais surtout plus pouvoir d'achat et moins de taxes. Vous savez, samedi, à la fin de la manif, j'ai rencontré, ici à Paris, j'ai rencontré une famille portugaise qui était là en tourisme, était venue passer le week-end. Comme ils nous disaient, quand on a vu Paris sans une voiture le matin, on est parti direct à Disneyland avec des petits-enfants. Et il me disait, le monsieur à la fin, on a parlé un petit moment, il me disait, mais vous savez, si les Français avaient subi ce que nous avons souffert au Portugal...
C'est la question que j'allais vous poser.
Ils auraient cassé le pays, ils n'auraient jamais accepté ça.
C'est la question que j'allais vous poser. Vous, au Portugal, vous avez traversé une longue période d'austérité et vous n'avez pas bougé réellement, socialement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période-là? Est-ce que c'est ce qui nous différencie? On a l'impression qu'on est assez voisins dans nos manières de fonctionner, nous les pays latins. Pourquoi ça n'a pas bougé à ce moment-là au Portugal? Alors, et pourquoi ça
manifs,
bouge maintenant,
faut
du
pas
coup
dire qu'il n'y a pas, il y en a eu des manifs. Il y en a qui ont été très, très sévèrement réprimés. Et un des premiers mouvements sur Facebook dans l'histoire, c'était au Portugal. Mmh. Dès 2011, des manifestations sans leader, sans corps intermédiaire, ni rien du tout. Et qui... peut-être les précurseurs des indignés. Mais ça n'a rien jamais donné.
Voilà.
Et jamais rien donné. Et vous savez,
mais ça ne s'est pas transformé.
On n'a pas, pas le même ADN dans les peuples. Les Français, bah, vous avez coupé la tête des rois en 1700, à la fin du XVIIIe siècle. Vous avez fait une révolution parce que vous aviez trop taxé. Je crois que vous aviez quelque chose dans votre ADN d'être déjà avant dans l'héritage. J'ai vu ça chez les travaux d'Emmanuel Todd. Quoi qu'on en pense de lui, c'est un travail de recherche que déjà depuis le XIIIe, XIVe, XVe siècle, on trouvait que l'héritage avait déjà une tendance égalitaire en France, nulle part ailleurs en Europe.
Et vous allez nous expliquer pourquoi ce qui s'est passé chez vous ne s'est pas transformé au fond et on ne sait pas d'ailleurs
50 ans,
qui...
peut-être presque 50 ans de dictature avant.
Alors oui, est-ce que c'est ça qui joue?
Une notion de soumission, de répression et soumission dans l'histoire portugaise, très près d'expérience de démocratie, l'influence de l'Église catholique aussi.
Oui, mais vous avez des voisins espagnols qui s'appellent Podemos par exemple et qui eux ont transformé quelque chose, donc pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas y aller?
C'est pas les mêmes pays. On dit que le Portugal et l'Espagne, un pays de passion, le Portugal un pays de compassion. C'est peut-être cela aussi les différences culturelles.
Vous restez avec nous, évidemment, Vibeke Knupprachlin, Norvège, excusez-moi encore, Norvège. Vous aussi, vous avez... Alors là, pour le coup, cette culture de la manifestation voire violente, j'ai lu ici et là qu'il y avait quelque chose de finalement très français.
Très
français. Je ne me souviens plus du journal dans lequel j'ai lu, c'est la manière dont les manifestations se déroulent souvent en France.
Absolument.
Ça
impressionne.
Ça impressionne, ça nous semble très contre-culture par rapport à vous, la Norvège.
Oui, complètement, parce que déjà pour ce premier point, chez nous, ce qui règne, c'est le cas de le dire parce qu'on est un royaume, c'est la concertation et le dialogue. Par exemple, dans le monde du travail, il y a 3 fois par an, c'est obligatoire, une réunion tripartite entre syndicats, patronat et l'État. Et quoi qu'il arrive, il y a ces réunions et ça montre que il y a, comment dirais-je, cet esprit de on parle avant d'agir qui est très très enraciné chez nous.
Mais ça veut dire que donc effectivement la manière de manifester est totalement contre-culture. Maintenant voilà. Sur le fond, sur celle des taxes, vous qui êtes aussi un pays à forte état-providence et donc à forte taxe également, est-ce que vous, quelle lecture on a fait en Norvège?
Je vais vous faire peut-être sourire, mais la plupart des Norvégiens, peut-être pas tous, mais la plupart, on aime payer les impôts. C'est vrai, hein? Parce que on voit, on comprend à quoi ça sert.
Mais peut-être que la différence est là. Ce qu'on entendait sur les barrages, c'est on voit pas à quoi servent nos impôts. Est-ce que vous avez-vous le sentiment que les Norvégiens voient à quoi servent leurs impôts ou pas?
Absolument. Donc, c'est très clair, c'est les hôpitaux, les routes, l'administration, l'État, enfin, oui, l'État-providence, donc il y a tout ça. C'est vraiment, vous le disiez, deux cultures complètement opposées. Et c'est pour ça que, excusez-moi, mais on vous regarde, les Français, un peu comme des êtres étranges. On sait que nous aussi, on est des êtres étranges, mais encore plus peut-être en France.
Mais vous nous servez de modèle parfois un peu dubitatif, mais comment font ces Norvégiens?
Il y a quand même une chose. Je dirais pas qu'il y a des gilets jaunes en Norvège maintenant, mais il y a quand même pas mal de gens qui commencent à former un mouvement de protestation, pas contre les taxes, mais contre les péages. Parce que des péages, il y en a partout. Et on va en mettre encore plus. Donc, il y a quand même, et c'est un mouvement qui, pour la première fois, je crois, de l'histoire de Norvège, est un peu violent. À tel point que plusieurs ministres ont dû avoir une protection.
Et comment se fait-il que ça devienne plus violent? Est-ce qu'il y a une forme de contagion finalement de mouvements, pas seulement l'autre, mais
ça,
de mouvements ailleurs aussi?
Sauf que ça, c'était avant les gilets jaunes. Donc ça serait peut-être dans le sens inverse. Et si je peux me permettre,
vous
il y a
prie,
peut-être
allez-y.
Une troisième raison, c'est que on a dit, n'est-ce pas, que les gilets jaunes attirent surtout les politiques des deux bords,
les deux extrêmes.
Hein, les deux extrêmes. Eh bien, en Norvège, le parti le plus extrême à droite, le parti populiste de droite, est au gouvernement.
Le Parti du Progrès qui est dans la coalition, en fait.
Voilà, depuis 5 ans. Donc, je pense que ça joue un rôle aussi.
Est-ce que vous avez le sentiment, Anna Navarro-Pedro, que ce mouvement-là, tel que vous le voyez, vous, aura une sorte d'empreinte durable sur la manière dont on nous regarde depuis l'extérieur? Je ne vais pas déflorer ce que nous racontera Jean-Marc Four tout à l'heure, mais en Europe, la France et Emmanuel Macron faisaient figure de leader, surtout parce qu'Angela Merkel était plus faible. Est-ce qu'aujourd'hui, on a perdu, selon vous, ce rôle-là désormais?
Je crois qu'Emmanuel Macron l'avait perdu avant ce mouvement, déjà. Il y avait des éléments qui faisaient que son aura avait bien pâli en Europe. Et ce côté un peu autoritaire, notamment dans le petit conflit qu'il y a eu entre Paris et Rome et Salvini, on a trouvé que les réponses de l'Élysée avaient été pour le moins faibles et belliqueuses. Ensuite, le mouvement en soi, en même temps, il y a beaucoup de gens qui se disent à l'étranger, ah, mais on est des vaches à lait, on devient de plus en plus des esclaves, on a une peur bleue de finir dans une sorte de dystopie, et à nouveau les Français, quelles que soient les motivations derrière, quelles que soient et il y en a, des tendances politiques qui peuvent manœuvrer derrière, eh bien, eux, ils sont en train de nous dire, arrêtez d'être des esclaves et révoltez-vous et exigez de vos politiciens, de vos représentants, qu'ils soient dignes de vous représenter. Donc c'est curieux cela, il y a ces deux... Pour l'Europe, oui, ça devient préoccupant, au niveau de la survie, au moins, oui, de la survie de l'Europe même, je dirais.
Vibeke Knopfracht-Lind, est-ce que vous avez évoqué le Parti du Progrès que vous aviez, vous, dans la coalition au pouvoir? Est-ce qu'on a le sentiment chez vous qu'on est rendu plus vulnérable, nous, la France, désormais, notamment à des mouvements populistes ou des mouvements d'extrême droite?
Oui, je pense. Et puis, en ce qui concerne l'Europe, c'est vrai aussi, sauf qu'il faut se rappeler que la Norvège n'est pas dans
bien
l'Union
sûr.
Européenne.
Mmh.
Par contre, Anna a utilisé l'expression « vache à lait » il y a deux secondes. La Norvège se sent comme la vache à lait de l'Europe. Parce que, par habitant, c'est nous qui payons le plus.
Tout en n'y étant pas, voilà. En effet,
mais
parmi les trois pays.
On fait partie de l'espace économique européen. Et pour avoir accès au marché libre, etc., on casque.
Alors, Anna Navarro-Pedro, vous avez évoqué Salvini à l'instant, qui s'est quand même beaucoup frotté les mains, qui lui aussi a usé d'ironie au moment de ce mouvement, puisque Emmanuel Macron, vous le rappeliez, avait aussi usé d'ironie en son temps. Bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante de France Inter à Rome. On a beaucoup fait de comparaisons, je ne sais pas si au fond c'est pas un peu trop facile, si elles sont toujours valides. On a beaucoup comparé le mouvement des Gilets jaunes avec le mouvement 5 étoiles. Est-ce que vous aussi, dès que vous l'avez lu de la même manière ou pas?
Bon, pas vraiment, vu d'Italie. C'est vrai qu'il y a des points de ressemblance, mais c'est vrai aussi que les 5 étoiles sont très structurées actuellement, et les 5 étoiles sont organisées, on va le dire, autour d'un leader, et ça depuis le départ, en fait. C'est la différence vraiment qui est fondamentale avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que les 5 étoiles, ils se sont créés en 2007 autour de Beppe Grillo, vous savez, ce comique qui était très populaire déjà en Italie, et qui a un talent d'orateur extraordinaire. On l'acclame sur scène, et c'est autour de lui que les gens, voilà, vont se réunir, vont descendre dans la rue, vont s'organiser. Il n'y a pas eu une contestation sociale comparable à celle des Gilets jaunes. On n'a pas fait de grandes manifestations, si vous voulez, mais c'est vrai qu'on a revendiqué des thèmes, et bien c'est vrai, assez proches de ceux des Gilets jaunes. Donc on est dans le changement de système politique. On ne croit plus du tout aux partis. On veut une autre politique. On veut qu'on s'occupe des gens qui se sentent méprisés, les jeunes précaires, les travailleurs pauvres, cette classe moyenne pour qui l'ascenseur social ne fonctionne pas. Et puis il y a cette rhétorique autour un peu du tous pourris. Les citoyens feraient mieux que les élus finalement, parce que c'est eux qui savent ce qu'il faut faire. Voilà, c'est un petit peu ça qui peut rassembler les deux, mais c'est quand même très différent.
Mais au fond, Mathilde, la différence aussi, c'est que le mouvement 5 étoiles est au pouvoir désormais. Donc il s'est structuré suffisamment vite pour pouvoir accéder aux élections et arriver à ce niveau de pouvoir.
Oui, alors il s'est créé en 2007 et on est en 2018, donc ils ont quand même eu 11 ans pour arriver au pouvoir au prix de concessions. C'est-à-dire qu'au départ, le mouvement 5 étoiles était contre les alliances, aucune alliance possible avec les partis traditionnels. Ils ont fini par y arriver, ils avaient plus tellement le choix. Ils étaient le premier parti d'Italie quand les Italiens ont voté au mois de mars. Et là, c'est vrai que pour respecter le vote des Italiens, eh bien, ils ont dû faire un compromis et aller au pouvoir avec un parti qui est beaucoup plus vieux qu'eux, finalement. Le parti de la Ligue. Et d'ailleurs, à l'exercice du pouvoir, ils se font un petit peu écraser, si vous voulez, par la Ligue, qui est beaucoup plus aguerrie, qui a une élite aussi, qui sait gouverner. Et donc, le mouvement, là, est en train de montrer un petit peu ses limites.
Et juste un tout dernier mot, Mathilde, on en faisait allusion à l'instant. Il y a eu une forme d'ironie de la part de Salvini lorsque ce mouvement a commencé. La superbe d'Emmanuel Macron, si on veut, lorsqu'elle est tombée avec ce mouvement-là, ça a fait un peu sourire de votre côté des Alpes.
Voilà, Matteo Salvini dit voilà, on considérait Macron comme le génie et le sauveteur de l'Europe. Bon, ben vous voyez que tout le monde s'était trompé. Ça, il l'a déclaré hier. Et puis du côté des 5 étoiles, le discours là est tellement clair. Les 5 étoiles disent, Di Maio a dit aujourd'hui cet après-midi, voilà, s'il n'y a pas de gilets jaunes en Italie, c'est parce qu'on est là nous et que nous on pense au peuple et que nous on va faire un budget pour le peuple et qu'on n'a pas intérêt à échouer. C'est aussi ça qu'il dit parce qu'il y a beaucoup d'attentes en Italie par rapport à ce gouvernement et pour l'instant les Italiens, eh bien, font confiance au gouvernement, ils attendent des actions.
Et en même temps, le budget, comme on le sait, et grâce à vous, d'ailleurs, c'est pas fait encore. Mathilde Imberti, merci beaucoup.
Pas encore.
Oui, comme vous dites, pas encore. Merci beaucoup. Vibeke Knopfracht-Lind, sur l'image qu'avait Emmanuel Macron dans un pays comme le vôtre lorsqu'il a été élu, est-ce que là aussi, il y a quand même une chute de piédestal dans la lecture que vous en faites?
Oui, mais c'est pas uniquement lui qui chute. Je trouve aussi que la France chute. Puisque, bon, bien sûr, on simplifie un peu. Les Gilets jaunes, c'est pas, ils sont nombreux. eux, mais c'est pas la France. Mmh. Mais quand même, toute cette violence que l'on voit, le fait que ils arrêtent aussi, enfin qu'ils arrêtent pas, mais qu'ils rendent difficile le travail des journalistes. Enfin, ça, ce sont quand même des choses qui nous choquent, quoi. Oui, et puis encore une fois, je suis désolée de me répéter, mais c'est l'idée que les Français, quand il y a un problème, ils descendent dans la rue. Ils peuvent pas s'asseoir autour d'une table de négociation. C'est quand même incroyable.
Mais ça fait rire, même les Portugais autour de cette table, que nous soyons incapables de le faire. Peut-être que vos voisins finlandais ou danois diraient la même chose, les Allemands diraient la même chose, mais les Portugais non. Et pourtant, encore une fois, effectivement, vous ne descendiez pas dans la rue. Anna Navarro-Pedro, juste pour conclure, c'est quand même une chose qui est intéressante chez vous, malgré tout, c'est que votre gouvernement a changé. L'austérité a été abandonnée. Une autre forme, alors, vous allez me dire, pas tout à fait, on pourrait en discuter longtemps, mais en tout cas, on est dans une autre forme de gouvernance aujourd'hui.
On est dans une autre forme de gouvernance. L'austérité n'a pas été véritablement abandonnée. On est dans les rails. Le déficit du budget, 0,8% cette année, 0,2% prévu pour l'année prochaine. Donc, on fait pas bombance. Mais ce qui s'est passé avec ce gouvernement, cette alliance est très étrange entre une sorte extrême gauche et un parti socialiste qui est de centre droite. Ils ont trouvé une forme de faire une redistribution différente. On a cessé de pomper chez les plus faibles pour donner aux plus riches. C'est ce qui se passait. On a l'impression qu'on avait avec le gouvernement précédent.
Ça nous rappelle un peu quelque chose.
Il y a une forme de redistribution. Évidemment, il y a une conjoncture favorable avec le tourisme au Portugal en ce moment, ce qui permet cela aussi. Mais c'est vraiment une forme de redistribution sans pour autant ouvrir large les cordons à la bourse.
Vibeke, promettez-moi de durer 20 secondes et pas plus.
Non, mais il y a une chose qu'on oublie. C'est l'environnement. C'est l'environnement qui est le grand perdant dans ce mouvement. Et pour nous, les Norvégiens, c'est catastrophique.
Et on n'a pas fini d'en parler, effectivement. On remarquera aussi que la COP24 passe intégralement inaperçue dans notre pays. Vous nous direz peut-être à l'occasion si ça se passe pareil chez vous, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans une espèce de vide un peu sidéral. Merci mille fois à toutes les deux de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe à Tunis avec la maire de Tunis que je vous présenterai ce soir sous les radars, notamment en Turquie avec des feux rouges et Elvis, notamment en Allemagne. La chronique pour tous de Julia Foyce, puisqu'un homme sur deux est une femme. Julia, tiens des nouvelles des Saoudiennes.
Oui, on va parler de Abaya à l'envers et puis on va remettre quelques chiffres à l'endroit aussi.
Allez, à tout à l'heure. Le monde à l'envers de Jean-Marc Four, décidément c'est Inside Out pendant une heure. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On en parlait à l'instant, qui peut encore bomber le torse en Europe alors?
C'est la Bérésina des leaders en Europe, donc c'est pas de mal à veille que l'Europe apportera des réponses à des mouvements comme les Gilets jaunes.
Allez, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par Londres avec Marianne Faithfull et Nick Cave de Gypsy Fairy Queen.
I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though
ones she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy.
Marianne Faithfull et Nick Cave de Gypsy Fairy Queen sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je remercie mon capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie Perrier sous les radars, direction d'abord la Turquie, un pays où l'écologie est loin d'intéresser encore les foules et les politiques.
Mais il y a quand même là-bas des initiatives dont on pourrait s'inspirer. À Istanbul, on peut payer son ticket de métro grâce à des bouteilles en plastique. L'AFP nous montre l'image d'un distributeur dans la station Sichan. Tulay vient de charger sa carte avec des bouteilles usagées. Bien sûr, dit-elle, des gens sensés vont utiliser ce système, veut-elle croire. Il y a encore beaucoup de gens qui jettent n'importe où, dans la rue même. Mais pour ceux qui s'inquiètent de ces questions, cela fait toujours une contribution. Alors, c'est un projet de la mairie d'Istanbul, pour l'instant dans 3 stations de métro. En Turquie, la gestion des déchets a longtemps été ignorée. Les défenseurs de l'environnement sonnent l'alarme. Le pays pointe à la 108e place sur 180 dans l'index de performance environnementale. C'est créé par les universités de Yale et Columbia. Environ 10% des déchets sont recyclés seulement. La protection de l'environnement, ce n'est vraiment pas au cœur des préoccupations. Malgré tout, le parti du président Erdogan, qui s'est illustré ces dernières années avec des projets de construction pharaoniques, destructeurs pour la nature, malgré tout, l'AKP commence à s'emparer de la question. Les sacs plastiques, par exemple, vont devenir payants le mois prochain. Dans le métro, en tout cas, le recyclage des bouteilles est un premier pas pour les plus motivés. Pour payer un trajet qui coûte 2,60 livres, il faut un 86 bouteilles dans le distributeur.
Ah oui, ouais, c'est quand même. Forcément, c'est pas facile. Une visite d'État très polémique, ça se passe en Israël.
Oui, le Premier ministre italien Matteo Salvini arrive aujourd'hui à Jérusalem. Le dirigeant populiste anti-immigration est reçu par son homologue Benjamin Netanyahou. Polémique à double titre. En Italie, la communauté juive demande à Salvini, à l'occasion de ce déplacement dans l'État hébreu, une condamnation claire du passé fasciste italien et des discriminations actuelles contre les immigrés. Polémique aussi côté israélien, où la gauche a lancé un appel à manifester pendant la visite de Salvini à Yad Vashem, le musée de l'Holocauste à Jérusalem. Sur leur pancarte, il y aura ce dessin, la tête de Salvini dans une machine à laver, et puis le slogan Yad Vashem, la grande blanchisserie d'Israël. Car pour beaucoup d'Israéliens, Salvini est l'invité de trop, après l'avenue du Hongrois Viktor Orban ou du Philippin Rodrigo Duterte, dont le journal Haaretz rappelle les propos. Voilà, Duterte qui dit Hitler a massacré 3 millions de juifs, maintenant il y a 3 millions de drogués aux Philippines, et il dit je serais heureux de les abattre. Alors Matteo Salvini a prévu, lui, de ne rencontrer que des officiels israéliens, aucun palestinien, car la bascule est là pour les Israéliens les plus radicaux. Le nouvel antisémitisme vient, selon eux, des populismes de gauche et de l'islam radical, pas des mouvements conservateurs comme la Ligue de Salvini. En tout cas, le président israélien Reuven Rivlin a décliné une rencontre avec le leader nationaliste italien, officiellement à cause d'un agenda trop chargé, mais Haaretz rappelle l'interview donnée par le président Rivlin à CNN. Il était alors très critique contre les relations diplomatiques d'Israël avec des mouvements d'extrême droite.
On termine en Allemagne, Amélie, avec un clin d'œil bien plus léger, bien plus entraînant aussi.
Oui, ça se passe dans le village de Friedberg, pas très loin de Francfort, dans le centre du pays. La
c'est ça
ville.
Que vous appelez entraînant.
Bon, bah là, je vous ai choisi un petit titre un peu sympa pour la fin de journée, quoi. Ouais. La ville, elle vient de changer ses feux rouges pour les piétons. Les bonhommes qui s'éclairent en vert et rouge ont désormais la silhouette. Vous l'avez reconnue.
Bah oui,
c'est qui ? Et oui, Elvis Presley. Tout en déhanché, hein, la silhouette sur les feux piétons. Alors, quel rapport entre le King et cette commune d'un peu moins de 30 000 habitants en Allemagne ? Eh bien, c'est là qu'Elvis a fait son service militaire entre 1958 et 1960, en ex-Allemagne de l'Ouest. Friedberg en garde un souvenir ému, même chez les jeunes comme cette habitante avec des piercings partout. Elle dit Elvis fait partie de Friedberg, ça a toujours été comme ça ici depuis qu'Elvis est venu, c'est aussi là qu'il a fait les premiers pas de sa carrière. Et donc si Elvis n'était pas mort, en tout cas il fait encore la circulation à Friedberg.
Moi je croyais qu'il n'était pas mort, de toute façon je pense qu'il est berger en Provence, je savais pas qu'il était à Friedberg.
Ah, en Provence, ah pourquoi pas.
Absolument, ben, oui. Allez, à demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
L'escale reportage d'Un jour dans le monde nous emmène en Tunisie ce soir, à Tunis, la capitale, le premier à faire sa révolution en 2011, vous vous en souvenez, et qui a aussi organisé des municipales en mai dernier. C'était les premières élections municipales depuis la révolution et, entre autres choses, premières élections à parité, hommes-femmes. Bonjour Anne Mignard.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir. Le maire, la maire de Tunis s'appelle Souad Abderrahim. C'est une chef d'entreprise. Elle a 53 ans. Elle est musulmane. Elle ne porte pas le voile islamique, ce qui peut être un gage de modernité, mais elle est proche. Elle est soutenue par Ennahda, le parti islamiste proche aux origines des frères musulmans. Et qu'en pensent alors les Tunisoises? Est-ce que tout cela est bien compatible? On voit ça avec vous, Anne.
Depuis le mois de juillet et l'élection de Souad Abderrahim à la mairie, peu de choses ont changé dans les rues de Tunis. Les déchets s'amoncellent, les prix grimpent toujours et les anciens bâtiments historiques tombent en ruine. C'est le triste constat fait par Olfa et Mounira, croisés dans les méandres de la Médina. Ces deux Tunisoises, 40 et 50 ans, sont femmes de chambre dans un hôtel. Chacune assure difficilement le quotidien de sa famille, mais reste pleine d'espoir. Elles ont voté pour Souad Abderrahim et l'assurent, une femme vaut mieux qu'un homme à la mairie.
Une femme réfléchit mieux qu'un homme. Elle a un cœur et un cerveau qui lui permettent de mieux réfléchir qu'un homme. Une femme sait toute seule élever ses enfants et s'occuper de sa maison, ce qu'un homme ne sait pas faire.
Et ce n'est pas dangereux que ce soit une islamiste pour le droit des femmes ?
Non, l'islam n'est pas dangereux pour nous.
Si ces femmes ne se sentent pas en danger, c'est sans doute en raison des relations particulières qu'entretiennent depuis plus de 50 ans la religion et l'État. La Tunisie est aujourd'hui l'un des rares pays musulmans à avoir adopté une interprétation libérale de la charia sur les questions liées aux femmes. La polygamie est interdite. La femme tunisienne peut voter, divorcer, travailler et même avorter depuis 1973. Dans les milieux les plus aisés de la capitale, l'arrivée de Souad Abderrahim à la mairie est aussi considérée comme une chance pour cette femme d'affaires.
C'est un nouvel exercice, c'est un nouvel apprentissage. Personne n'est parfait, elle va certainement tituber, peut-être même tomber, mais l'important c'est d'apprendre et c'est de se relever et c'est faire de son mieux. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que c'est quelque chose d'assez positif dans l'ensemble.
Et qu'elle soit issue d'un parti conservateur, d'un parti islamiste, est-ce que ça vous inquiète ou pas ?
Ça ne pose pas un gros souci. Tant qu'on est d'accord sur la manière de gérer la capitale, je pense que ça ne pose pas de souci qu'elle soit d'un parti conservateur.
Et de toute façon, si la nouvelle maire dérape, cette femme l'affirme, les gens n'hésiteront pas à descendre dans la rue. Il est vrai que depuis le départ de Ben Ali, plus personne n'a peur de s'exprimer et que la rue parle fréquemment. Mais certaines Tunisoises sont inquiètes, des femmes engagées comme Latifa Bouslema, qui milite au sein du parti de gauche El Massar. Aujourd'hui, elle est à la retraite, mais elle a travaillé pendant plus de 30 ans à la mairie. Elle connaît les dossiers, les enjeux et suit avec attention les premiers gestes de la nouvelle élue.
Cette femme, elle a une couleur politique. Cette couleur politique ne va pas nous permettre de profiter du fait qu'elle soit femme. Les premières activités qu'elle a faites, c'était une opération de pèlerinage blanc à Carthage avec le ministre du culte. Donc ce n'est pas du tout le rôle d'une maire. C'est elle qui a présidé cette activité. C'était sa première activité publique. Et puis, bon, une première réunion avec le même ministre où elle a insisté sur l'élimination d'activités bruyantes autour des mosquées, et notamment Jemaa Zitouna, la mosquée Zitouna, où on fait plein d'animations, surtout au mois de Ramadan. Bon, pour elle, il faut laisser cet espace de culte libre et serein pour les prieurs. Or, nous, on cherche une ville animée. Et puis, autre chose, par rapport aux nominations, les présidents de commission, la compétence n'y est pas, l'appartenance au quartier non plus, le programme politique non plus. On a même vu un boucher à la tête de la commission d'hygiène. Pour moi, femme maire de la capitale de cette couleur, c'est une menace.
Même inquiétude du côté de l'Association tunisienne des femmes démocrates, dont fait partie Fethia Saïdi. Elle est sociologue et journaliste.
Il y a des problèmes spécifiques concernant les femmes. Par exemple, les garderies scolaires, les jardins d'enfants, etc. La proximité de certains services pour faciliter le travail des femmes. On va voir si elle va faire ce genre d'initiative ou pas. On va suivre ces projets, on va suivre ces actions et on va alerter la société civile et on va alerter les partis politiques. Et on va être bien sûr dans l'opposition et s'il y a des atteintes à l'intégrité physique et morale des personnes, s'il y a des projets qui vont à l'encontre des droits des femmes, on va être non seulement dans l'opposition mais dans la proposition aussi.
Et tant mieux car, comme toutes ces femmes l'affirment, il y a du pain sur la planche pour redonner au pays sa richesse et ses titres de gloire, maintenant qu'il est une vraie démocratie.
Anne Mignard, en Tunisie, merci beaucoup. Et c'est David Bowie qui est là dans Un jour dans le monde, The Man Who Sold the World.
Upon the stair, we spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I roamed, I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Il a vendu le monde, David Bowie. Hop. En même temps, s'il avait demandé, on lui aurait donné. Tiens.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saint-Esse.
We're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
On me glisse dans le casque qu'un homme sur deux est une femme et que c'est pour ça que voici la chronique pour tous de Julia Foyce. Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde, bonnes comme mauvaises. On commence, tiens, par l'odeur de la semaine.
C'est un mélange de rance, de fanée, d'un peu amer, de renfermé. L'odeur du réac, vous voyez. En tout cas, ça fleure pas très bon dans l'OIU en ce moment du côté du Parlement, se sentant certainement pousser des ailes dans le dos grâce à l'administration Trump. Les opposants à l'IVG prennent le micro, donnent de la voix, se font des brushings impeccables, mettent robes rouges et enfants en écharpe pour dire ce genre de choses. La maternité n'est pas chose facile, certes, mais elle est nécessaire. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous est ici aujourd'hui, la raison pour laquelle chacun d'entre nous a un cœur qui bat et la possibilité d'avoir ce débat. Et là, une caresse à bébé, c'est joli à l'image, ça va vous émouvoir un cœur de député, ça. Christina Hagan, élue républicaine, défend ici l'un des deux projets déposés à la Chambre des représentants de l'Ohio. Le premier n'a pas encore été examiné et propose tout simplement d'assimiler l'IVG à un meurtre et donc de le sanctionner de la même façon. Allez, hop là, peine capitale. Le second, lui, vient d'être adopté par les représentants et doit encore obtenir le feu vert du Sénat. Appelée loi du battement de cœur, si, si. Il prévoit de punir de 12 mois de prison tout avortement pratiqué au-delà de 6 semaines de grossesse. Jusque-là, des projets similaires votés dans différents États américains avaient tous été retoqués au niveau fédéral. Oui, mais avec la nomination du très conservateur Brett Kavanaugh, mon ami, au début de l'automne à la Cour suprême, il n'est pas impossible cette fois que le texte passe. Et au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, comme quoi tout le monde est synchro. La Pologne s'apprête à donner un nouveau tour de vis sur l'IVG. Elle a déjà l'une des législations européennes les plus restrictives en la matière. L'avortement n'y est autorisé qu'en cas de viol, de risque pour la santé de la mère ou de malformation grave du fœtus. C'est ce dernier critère que les députés conservateurs voudraient faire sauter. Sauf que 94% des avortements légaux pratiqués en Pologne le sont aujourd'hui parce que le fœtus est lourdement handicapé. Supprimer ce critère revient donc à interdire l'avortement ou quasi. Alors, je voudrais pas avoir l'air, Fabienne, de citer Simone de Beauvoir, c'est pas mon genre, mais
non,
tout de même,
pas du tout.
N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Comme quoi, Simone, eh ben, elle a eu le nez creux.
Alors, mais ça bouge quand même, Julia, ça bouge, si j'en crois votre image de la semaine.
Et elle nous vient d'Arabie Saoudite, si, si, c'est plutôt là-bas que ça avance, enfin que ça pourrait avancer, enfin qu'on essaye de faire en sorte que ça puisse avancer. Bref, des femmes portant une abaya, ce voile noir qui les recouvre totalement, ça, on avait l'habitude de le voir dans l'espace public saoudien. Là, ces photos qui se multiplient sur les réseaux sociaux montrent à peu près la même chose, à un détail près. Ces abayas sont mises à l'envers, photographiées, postées, aimées et partagées en signe de protestation. Un appel du pied, peut-être aussi au prince héritier. Mohamed Ben Salman avait montré au printemps dernier un signe d'ouverture plutôt inédit sur le sujet. Si les femmes, avait-il déclaré, doivent porter des tenues décentes et respectueuses comme les hommes, rien dans la charia ne les oblige à porter l'abaya. Sauf que depuis, rien n'a bougé, pas le moindre petit décret d'application publié. Comme quoi, que de la gueule, Mohamed ?
Je vais être content. Et on termine avec le chiffre de la semaine.
Ou plutôt les chiffres. C'est une enquête sans précédent menée par l'Ipsos. L'Institut de sondage a sélectionné des enquêtes menées sur le harcèlement sexuel dans 12 pays différents. Elle a ensuite posé la question suivante à ses habitants. Selon vous, sur 100 femmes de votre pays, combien ont été victimes de harcèlement sexuel depuis l'âge de 15 ans ? Eh ben, on est très loin du compte, hein. Aux États-Unis, les hommes tablent sur un petit 44% quand elles ne sont pas loin du double. Les Français, eux, estiment à 40% environ le nombre de femmes victimes de harcèlement sexuel. Elles sont 75%, comme quoi. MeToo, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ou alors, comme quoi, pour que les oreilles se débouchent, enfin, on va continuer à libérer la parole, selon la formule consacrée. En tout cas, les langues se délient bien. Les statistiques des violences sexuelles ont bondi depuis le début de la vague MeToo en France. On passe, d'après l'Observatoire national de la délinquance, de 173 000 victimes déclarées en 2017 à 265 000 cette année. Des femmes, dans leur écrasante majorité. Et encore, l'enquête ne compte que les violences sexuelles subies hors ménage, soit une victime toutes les deux minutes. Et donc, allez, combien de femmes harcelées, menacées, molestées, abusées, voire violées depuis le début de cette chronique, Fabienne ? Chronique de 4 minutes, une femme toutes les deux minutes, ça nous en fait combien ?
Beaucoup.
C'est ça, comme quoi, vous comptez bien, Fabienne, ça nous en fait deux. Et comme quoi, je peux revenir la semaine prochaine ?
Ben, vous parlerez moins longtemps, du coup. Allez, à la semaine prochaine.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, difficile de prédire, on en parlait tout à l'heure, comment va évoluer le mouvement des Gilets jaunes après les annonces faites par Emmanuel Macron, sur lesquelles on reviendra évidemment à 19h. Mais dans cette crise, si on regarde en creux, il y a un grand absent, c'est l'Europe et c'est votre monde à l'envers.
D'abord un constat simple, quelle séquence, quelle succession d'événements politiques en quelques jours dans les trois principaux pays européens, et ces événements en France, en Allemagne, au Royaume-Uni disent à peu près la même chose, l'Europe est en panne de leader. On va commencer par la France, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron revendique un rôle de moteur au sein de l'Union. Le président français, on le sait, voulait incarner la modernité, le progressisme en Europe. En un mois de mobilisation des Gilets jaunes, le voilà maintenant associé à l'injustice sociale, contraint de reculer sur ses réformes et bien en peine d'arrêter la spirale de violence. C'est peu de dire que le crédit du président français a diminué à Bruxelles. Il avait déjà du mal avant à convaincre ses partenaires de réformer l'Europe. Alors là, ça va devenir mission impossible. En Allemagne, ce n'est guère mieux. Angela Merkel, vendredi dernier, a donc passé la main. On le sait, elle ne dirige plus son propre parti. Vous allez me dire qu'elle a malgré tout réussi à faire élire sa dauphine désignée, Annegret Kramp-Karrenbauer. Mais la chancelière aura du mal à aller au bout de son mandat. Et en Europe, on va dire que son panache blanc est assez délavé. Quant au Royaume-Uni, alors là je vous fais pas un dessin, Theresa May est engluée dans le Brexit sans solution, sans majorité, rarement Premier ministre britannique a été autant affaibli. En fait, les seuls leaders bien importants en Europe sont des détracteurs de l'Union et de ses valeurs fondatrices, Matteo Salvini en Italie, Viktor Orban en Hongrie. On se résume à 5 mois des élections, l'Europe ressemble à un canard sans tête.
Donc ce que vous dites, c'est que personne n'incarne en fait l'Europe aujourd'hui.
C'est un peu comme un retour 50 ans en arrière, vous savez, retour à cette phrase prêtée en 1970 à Henry Kissinger, alors conseiller à la sécurité à la Maison Blanche à Washington. L'Europe, mais quel est le numéro de téléphone de l'Europe ? Aujourd'hui, il n'y a pas de leader strictement européen. Il n'y a que des leaders nationaux dans chacun des pays européens qui essaient, pour certains, de prétendre à un leadership européen. D'ailleurs, pour un dirigeant, la condition sine qua non pour avoir de la légitimité à Bruxelles, c'est d'être fort chez soi, dans son pays, et de pouvoir envoyer au Parlement européen une cohorte de députés de son parti. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est affaibli, sa légitimité en France a chuté et on voit mal La République En Marche faire un carton aux européennes. À l'inverse, il n'y a pas de leaders européens en tant que tels, dont la légitimité ne serait pas nationale, mais européenne. Le dernier en date, c'est sans doute Jacques Delors, lorsqu'il était président de la Commission, c'était quand même il y a 25 ans. Et depuis, rideau, les dirigeants nationaux ont refusé de mettre des leaders d'envergure à Bruxelles. Par-dessus le marché, il y a ce refus de constituer des listes transnationales pour les européennes, ce qui n'arrange rien. Ça serait pourtant du bon sens pour un scrutin européen. Résultat des courses, l'Europe est en panne de dirigeants et cause ou conséquence de cette situation, elle est aussi en panne de politique.
Et là donc, je sens que vous allez en revenir aux gilets jaunes.
Ben oui, regardez, fait révélateur, on en est aujourd'hui à s'interroger, on le faisait d'ailleurs dans le journal de 18h tout à l'heure, pour savoir si Bruxelles va accepter que la France creuse son déficit pour financer les mesures sociales annoncées hier soir par Emmanuel Macron. Ça pourrait en effet nous conduire à un déficit de 3,5% l'an prochain, très au-dessus de la barre dogmatique des 3% fixée par Bruxelles. Autrement dit, l'Europe pourrait être un obstacle à des mesures de justice sociale. Ça nous rappelle quoi ? Que l'Union n'est qu'une union économique et financière, sans même un budget commun. On peut s'en féliciter ou le déplorer, mais c'est comme ça. Et le social dans tout ça, réponse pas bézef, comme disait mon grand-père, pas grand-chose. L'Europe sociale, ça se cantonne en gros à la limitation du temps de travail, 48 heures par semaine maximum, et à des directives sur l'égalité homme-femme. Pour le reste, c'est comme pour la fiscalité, les États nationaux ont voulu garder la main. Donc pour faire court, il n'y a pas d'Europe sociale. D'ailleurs, les gilets jaunes ne s'y trompent pas, l'Europe elle est quasi absente de leurs revendications, ils n'en attendent rien.
Jean Marfour, merci beaucoup. Vous célébrez votre grand-père au passage. Nous restons ensemble pour le téléphone sonne. On ne lâche pas la crise des gilets jaunes au milieu du guet. On va essayer de comprendre, nous, comment on va se parler maintenant que la crise prend ou doit prendre une autre forme.